Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ils estiment que Parcoursup, le nouveau système d'admission post-bac, est discriminatoire. Des lycéens de Seine-Saint-Denis et les syndicats SNES, FSU et Sud Éducation dénoncent le fait que les bons élèves de quartiers défavorisés n'aient pas encore eu de résultats sur l'entrée l'an prochain à l'université, contrairement aux lycéens à Paris.
Au risque de braquer un peu plus ses alliés, Donald Trump renforce les taxes douanières sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance de l'Union européenne, ainsi que du Canada et du Mexique. Le Canada et le Mexique répliquent par des mesures équivalentes, vous l'entendrez, l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, a du plomb dans l'aile.
Les populistes s'installent finalement au pouvoir en Italie. Alliance entre les 5 étoiles anti-système et la Ligue d'extrême droite. Cette alliance va officiellement voir le jour cet après-midi, ce qui inquiète le reste de l'Union européenne. Et vous, quelle est votre idée de l'Europe? C'est le thème de hashtag la chronique interactive du vendredi à retrouver à la fin de ce journal. Hashtag qui se penche sur les consultations citoyennes qui ont été lancées à travers toute l'Union européenne. Ils éprouvent un sentiment d'injustice vis-à-vis des Parisiens qui ont déjà obtenu une réponse positive sur Parcoursup pour entrer dans l'enseignement supérieur à la rentrée prochaine. Des élèves du lycée Paul-Éluard à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis donc, ont bloqué leur établissement hier, soutenus par des professeurs et des élus. Tous dénoncent un traitement inégal des élèves de banlieue défavorisés par le nouveau système post-bac. Les lycéens de Seine-Saint-Denis, par exemple, auraient moins de chances d'obtenir un oui pour leur vœu qu'un élève de Paris à niveau équivalent, voire meilleur, Charlotte Baris.
90% de réussite au bac en 2016, au-dessus de la moyenne nationale et dans le top 10 des lycées de Seine-Saint-Denis. Pourtant, dans toutes les classes de terminale du lycée Paul-Éluard, la majorité des élèves est sur liste d'attente, comme Rania, élève en terminale S.
À l'ouverture des résultats, j'avais eu que des vœux en attente et quelques vœux refusés. Et aujourd'hui, j'ai un vœu à accepter qui est Villetaneuse, en Seine-Saint-Denis. Les appréciations soulignent que je suis une élève sérieuse, que je peux très bien réussir dans les vœux que j'ai choisis.
Shana, en terminale L, n'a, elle aussi, aucun de ses vœux hors de Seine-Saint-Denis de valider. Elle dénonce une sélection géographique et non pas au mérite.
Finalement, on n'a pas vraiment la liberté de choisir. En fait, je trouve ça inadmissible que, parce qu'on vient de banlieue, on doit rester dans la banlieue. Il faudrait qu'on ait le droit de pouvoir aller là où on veut. On est censé tous avoir une école, et c'est ce que Macron disait. Il voulait une école pour chaque élève, et au final, on se retrouve sans rien.
Une situation qui n'est pas isolée dans le 93. Le syndicat Sud Éducation estime que moins de la moitié des élèves de Seine-Saint-Denis a reçu au moins un oui, contre plus de 2 élèves sur 3 au niveau national. Colin Favergeon est membre du syndicat et professeur de mathématiques à Aubervilliers.
Parcoursup n'a rien résolu. On n'avait pas autant l'année dernière, autant de lycéens du 93 qui n'avaient rien. Le simple fait de dire on vient du 93, dans les comités de classement, dans les comités de sélection, ça joue en votre défaveur, quels que soient vos résultats et les résultats du lycée au niveau national.
Le maire de Saint-Denis et les députés du 93 demandent désormais d'être reçus par le rectorat avec une délégation de lycéens.
Les populistes arrivent au pouvoir en Italie. Le premier gouvernement d'alliance entre le mouvement 5 étoiles anti-système et la Ligue, parti d'extrême droite, doit prêter serment cet après-midi à Rome, sous la direction de Giuseppe Conte, un juriste novice en politique qui a promis une politique sécuritaire et anti-austérité, baisse des impôts et hausse des dépenses de l'État, quitte à irriter les partenaires européens de l'Italie. Il y a un an tout pile, Donald Trump annonçait la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Depuis, le locataire de la Maison-Blanche a rayé d'un trait de plume le texte sur le nucléaire iranien. Et aujourd'hui donc, dans son renoncement global au multilatéralisme, Donald Trump renforce à partir d'aujourd'hui les taxes douanières pour entrer sur le sol américain, 25% sur les importations d'acier et 10% sur celles d'aluminium en provenance de l'Union européenne ainsi que du Canada et du Mexique. L'argument utilisé par l'administration Trump, protéger la sécurité nationale des États-Unis, suscite indignation et incompréhension dans le monde, jusqu'au sein du propre camp républicain de Donald Trump. Alors que son pays accueille lui aujourd'hui un G7 des finances, le premier ministre canadien Justin Trudeau a estimé que ces taxes étaient inacceptables, un affront au partenariat de longue date entre le Canada et les États-Unis. Le Canada, premier fournisseur d'acier des États-Unis, réplique avec des surtaxes qui pourraient coûter plus de 12 milliards de dollars aux États-Unis, soit l'équivalent des exportations canadiennes d'aluminium et d'acier vers ce pays. Même type de représailles appliquées par le Mexique, qu'une escalade qui risque de compliquer les négociations sur l'ALENA, l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord. Emmanuel Stills.
De but en blanc, le Mexique a riposté ce jeudi à la décision des États-Unis sur l'acier et l'aluminium. Le ministère mexicain de l'économie a annoncé des mesures équivalentes. Pour entrer au Mexique, une variété de produits américains subiront donc de nouvelles taxes. Cela vaut pour certains types d'acier, des lampes, de la viande de porc, des pommes, des érelles et des fromages. Le gouvernement mexicain maintiendra ces mesures tant que Washington ne fera pas marche arrière sur l'acier. L'an dernier, le Mexique était le troisième plus grand exportateur d'acier vers les États-Unis, derrière le Canada et la Corée du Sud. Une autre bataille commerciale pourrait s'ouvrir si Washington impose des taxes sur les importations automobiles. C'est le volet qui menace de faire chavirer l'actuelle renégociation de l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord. L'atmosphère était déjà électrique entre Mexico et Washington cette semaine, suite à un échange de tweets entre Donald Trump et Enrique Peña Nieto au sujet du mur de la discorde sur la frontière. Peut-être les taxes douanières sont-elles le moyen trouvé par Trump de nous faire payer la construction du mur, disent certains analystes au Mexique, alors que des internautes blaguent sur le fait qu'il n'aurait jamais fallu livrer le baron de la drogue Joaquin El Chapo Guzman aux États-Unis parce qu'il aurait pu servir de monnaie d'échange dans les négociations commerciales.
Emmanuel Stils à Mexico pour France Culture. Les médicaments anti-Alzheimer jugés insuffisamment efficaces et potentiellement risqués ne seront plus remboursés par l'assurance maladie à compter du 1er août prochain. Un arrêté a été publié aujourd'hui au Journal officiel.